9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé sur BFM, bienvenue, ravi de vous retrouver. Patrick Soulaï nous a rejoint. Hola Patrick.
Hola Philippe, hola tout le monde.
Formateur en process communication, intervenant en entreprise et organisateur du réveillon 90s.
Et yeah, ce 31, les gens vont passer le réveillon avec moi et dans un délire années 90. D'ailleurs,
oui.
La couleur, t'as la ref ou pas?
Non mais attends, d'abord vous me tutoyez pas mon Patrick. Ensuite on est à la radio, donc ce que vous venez de faire ça passe pas à la radio.
Oui mais il y a des gens sur YouTube également.
Voilà. Donc c'est filmé, donc, c'est vrai que vous avez un gilet avec des gros boutons de couleur violette, très années 90.
Exactement.
Manque plus que les épaulettes, voyez.
Exactement, mais les épaulettes non c'était trop, j'ai pas pu.
Mais alors ceci dit, le petit rappel de chaussettes
Adidas.
De la couleur de votre pull, ça aurait pu être des Burlington, parce qu'en 90, on portait des Burlington.
Exactement.
Mais bon, voilà. C'était l'instant fashion. Sébastien Vaumoron nous a rejoint. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous êtes consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Alors, ce qu'on appelle la QVT. Alors, attention, quand on parle de QVT, on ne parle pas de qualité pendant qu'on travaille. C'est plutôt, on parle de la qualité en pause.
En fait, c'est toute la question. Que veut dire le mot au travail, dans qualité de vie au travail? En fait, la qualité de vie au travail, c'est pendant qu'on travaille et pas pendant qu'on est en pause. Or, la plupart du temps, elle est exprimée comme quand on est en pause, c'est-à-dire un baby-foot ou des fruits bio. Et ça, c'est quand on travaille pas, c'est quand on est en pause. Et la vraie QVT, c'est lorsqu'on est en train de travailler. Quelle est la qualité de vie que l'on a pendant qu'on exerce le travail?
Vous m'avez fait ma punchline de la semaine.
Voilà,
le travailleur en entreprise n'est pas en difficulté, fatigue ou épuisement à cause de l'absence de la pomme bio de 10 heures ou de la partie de baby foot de midi. Mais c'est vrai qu'on a vu arriver comme ça en entreprise des distributeurs de Coca-Cola, des baby foot, des tables de ping-pong. Et effectivement, comme vous le dites, alors ça caricature un petit peu, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est matérialisé. Des massages sur lieu de travail, il y a eu aussi les fameux fruits bio.
Tout à fait. Ouais. C'est une mode, en fait.
Vous dites que c'est une mode, mais c'est beaucoup plus vieux qu'on pense, en fait. Hein. Ça a toujours existé, en fait.
Sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail, ça dépend ce qu'on entend par travail, en fait. Si on considère que le travail, c'est le fait de faire un effort, de réfléchir, et eh bien, en fait, les moments de détente sur le lieu du travail démarrent dès l'école. Dès l'école, on a effectivement des moments de pause qui s'appellent des récréations, où il y a des jeux, où on peut faire du baby-foot, et on peut faire tout ça, où on a un goûter. Donc ça existe dès l'école, et ça depuis des décennies. Après, dans le lieu de l'entreprise, c'est assez récent, et ça contribue à du bien-être au travail, ce qui n'est pas la qualité de vie quand on travaille. C'est du bien-être sur le lieu du travail.
Vous distinguez les deux choses. Rapprochez votre micro. Alors, vous publiez Paradoxe du Burnout aux éditions Tom Pouce, sous-titré donc concrètement « Que faire, mieux comprendre les dessous de sa mécanique ?» Et vous avez mis le mot « paradoxe » au pluriel. Alors, qu'est-ce que vous entendez par un paradoxe? Moi, je connaissais le paradoxe d'Abilène, mais vous en distinguez plusieurs des paradoxes.
En fait, il y a plusieurs paradoxes dans cette question du burn-out. En fait, notre société française organise les choses pour que les gens, finalement, soient dans les meilleures conditions de travail et souffrent le moins possible du travail. Le travail peut être dangereux. Alors, on le sait quand on est, par exemple, charpentier-couvreur, qu'on monte sur les toits, on sait qu'on peut glisser, tomber, se blesser ou se tuer. On le sait moins quand on travaille dans un bureau, par exemple, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des risques psychosociaux qui, eux, peuvent amener un épuisement. Alors, il peut y avoir la surcharge de travail, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent. Mais il y a d'autres risques. Il peut y avoir des conflits de valeurs, il peut y avoir des problèmes d'autonomie. Trop d'autonomie amène du stress, de l'anxiété. Et donc ça, ce sont des risques psychosociaux qui peuvent amener un burn-out. Et ce qu'on observe, c'est que...
Alors, on va rester sur le mot paradoxe, et puis on parlera des risques psychosociaux. Un paradoxe, ça peut être, par exemple, on s'est rendu compte, puisque vous avez interrogé dans votre enquête des personnes qui avaient 80 ans, que le temps de travail avait sensiblement diminué autour des 40 ou 50 dernières années et que paradoxalement, les gens sont plus fatigués. Ça peut être un paradoxe.
Complètement. Et c'est sur ça, par exemple, que j'allais venir avec la question de la charge de travail, du temps de travail. En fait, en 70 ans à peu près, on a perdu environ 350 heures de travail par an, en moyenne. Ça, c'est l'INSEE qui nous l'indique. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille aujourd'hui aux 35 heures travaille 350 heures de moins par an que quelqu'un d'autre il y a 70 ans.
Ça fait l'équivalent de 10 semaines.
10 semaines de congés payés aux 35 heures, ce qui est énorme. hein, en plus des semaines habituelles, plus des RTT. Et malgré ça, en fait, il y a plus de gens en burn-out aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 70 ans. Et ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire que on travaille beaucoup moins qu'avant et on est beaucoup plus en burn-out qu'avant. Voilà. Là, on est face à un paradoxe. Tout à fait, oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'étymologie des mots. Et on verra qu'on utilise beaucoup de mots dont le sens est galvaudé ce matin. Par exemple, on commence par l'étymologie du mot « travail ».
Alors, le travail, en fait, oui, on parle du travail souvent dans des formations comme le tripalium, hein, celui qui, cet objet qui est un instrument de torture. Les récentes recherches sur le mot travail iraient plutôt sur le fait de fournir un effort. Et en fait, le travail est pas réservé à l'humain. Finalement, alors il y a plusieurs axes. La question de l'âge, la question du fait que c'est pas réservé à l'humain. L'âge, il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre quelqu'un qui a 30 ans qui fait des mathématiques appliquées à la finance. Quelqu'un qui a 20 ans qui fait des maths à la fac, un élève de collège de 4e qui fait des maths, et un enfant de 6 ans qui fait des mathématiques aussi, qui résout des problèmes, qui fait des calculs. Ils travaillent tous. Et donc ça, sur le mot travail, c'est vraiment le fait de fournir un effort. C'est pas le fait d'être salarié ou d'être employé. C'est le fait de produire quelque chose et de fournir un effort.
Patrick, sur l'étymologie, vous avez un sens à rajouter peut-être ?
Ouais, là-dessus, je trouve ça intéressant parce que du coup c'est l'effort, mais l'effort c'est aussi pour moi ça résonne aussi par rapport à une comment dire à la connaissance de soi, c'est-à-dire que à un moment l'effort peut devenir une souffrance en fait. C'est-à-dire que et du coup pour moi le tripalium, pour moi ça résonnait très fortement, parce que le jour où j'ai découvert l'étymologie et tripalium, je me suis dit, du coup, moi, je vais œuvrer, qui est pas la même chose pour moi, parce que je veux être dans un environnement dans lequel je vais prendre du plaisir, et ce qui n'enlève pas l'effort. Mais du coup, quand vous dites effort, moi, je me dis, ouais, mais il y a quand même un effort qui peut emmener, du coup, burn-out, qui peut m'emmener à une...
Oui,
à une surcharge.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le problème, c'est le risque.
Okay.
Quand on travaille, le risque, c'est de travailler trop. Et de s'épuiser. Voilà. Mais en soi, le travail est porteur de très nombreux risques, qu'ils soient des risques physiques, chimiques, thermiques, etc. Travailler en restauration, dans des ambiances très chaudes ou très froides, etc. Donc il y a plein de risques. Dans les risques psychosociaux, cette charge de travail, le fait de travailler contre ses valeurs, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous amener, nous, dans un conflit intrapsychique, qui n'a pas de solution. Et donc, on s'épuise. Et on peut effectivement se retrouver dans un état de burn-out. Mais le travail, finalement, en fait, les animaux travaillent aussi. Autrefois, les bœufs travaillaient. Mais les matières travaillent aussi. Mmh. Le bois travaille également. Mmh. Donc, c'est vraiment le fait de faire un effort, d'être dans un environnement et de faire quelque chose. Donc ça, c'est la question de l'origine du mot travail. Mmh. Et effectivement, elle était très souvent associée à la souffrance, ce qui allait servir à un discours, effectivement, mais ça semble quand même plus large que ça.
Mmh. Okay.
Ce que vous dites dans votre livre, et que vous expliquez très bien, c'est que on travaille très tôt, et qu'on peut considérer que quelqu'un qui va à l'école est un travailleur, déjà.
Écoute, complètement. Quand vous allez chercher votre enfant à la sortie du CP, vous lui dites pas « mon chéri, ma chérie, est-ce que t'as bien joué aujourd'hui ?» On lui dit, mon enfant, mon chéri, ma chérie, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as bien écouté ta maîtresse? Est-ce que tu as bien fait tout ce que ta maîtresse t'a demandé de faire? Donc on est vraiment déjà, dès le CP, mais même avant, dès la maternelle, on est dans une attitude de travail. Ce qui différencie avec l'adulte, qui est salarié ou non salarié, le travailleur non salarié, c'est qu'il n'y a pas de production d'argent en face, et qu'on travaille pour soi. Donc à la fin du 19e, on a remplacé le travail des enfants dans les manufactures, dans les usines, etc., par un travail intellectuel, l'école, qui les aide à se construire en tant que citoyens. C'est important, c'est bien. Mais c'est du travail aussi.
Alors c'est du travail, et vous expliquez que le rapport qu'on a ensuite en tant qu'adulte au travail, eh bien ça se construit justement pendant ces années de scolarité.
Tout à fait. On a une école qui nous enseigne de façon indirecte que ce qui compte, c'est pas la réussite que l'on a sur les tâches que l'on fait, mais le temps qu'on va y consacrer. Si vous avez un élève de collège qui, par exemple, obtient 16 de moyenne générale et qui fait rien à l'école, qui
les doigts dans le nez.
Ouais, c'est ça. Et qui à la maison ne bosse pas et qui a 16, il sera moins valorisé par les enseignants au conseil de classe qu'un enfant qui a que 12, mais par contre qui travaille 2 heures tous les soirs. Or, celui qui a 16 de moyenne, il a quand même des bien meilleurs résultats que celui qui a 12. Et donc, ce qui est valorisé, ce n'est pas le résultat, mais c'est l'investissement. Si vous êtes cadre dans une grande boîte en France et que vous sortez du boulot à 17 heures, on va vous regarder bizarrement. Si vous êtes cadre dans une grande boîte à l'extérieur de la France, dans les pays voisins, et que vous sortez à 17h, là, on va trouver ça normal. Si vous sortez à 19h ou 20h, on va vous regarder bizarrement. Parce que la culture du travail, le rapport au travail, à l'effort, n'est pas le même.
L'important, c'est pas le temps que vous y passez, c'est les résultats que vous obtenez.
Bah, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est important, oui. Ouais, ouais. Et en France, on a cette culture. C'est ce qui fait qu'on amène une surcharge de travail, en fait. Un temps de travail qui est au-delà de ce que ça devrait être. Et en plus, on a, chez les cadres, il y a ce forfait cadre où ils sont pas au nombre d'heures. Ils doivent pas faire 35 heures, mais voilà, ils ont un nombre d'heures qui est beaucoup plus large et ils doivent faire le travail qu'il y a à faire. Et ça ne s'arrête jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, si on est très perfectionniste, si on est trop consciencieux, si on est voire peut-être avec un sentiment de culpabilité derrière, eh bien, on va s'en rajouter alors qu'on pourrait peut-être s'arrêter plus tôt et se préserver.
Mais est-ce que du coup, ce que vous dites, ça décrit pas aussi également la vision française qu'on a du travail et de l'effort, c'est-à-dire même la vision qu'on peut avoir. Là, on parle des gens qui travaillent, mais aussi des chômeurs. Il y a des chômeurs qui ne travaillent pas, ce sont des feignants.
Oui.
Et vous le dites très bien dans votre livre, dans la recherche de CDD et CDI d'ailleurs.
Oui, complètement. Donc il y a un rapport qui est assez particulier au travail. Et effectivement, le livre fait suite à une enquête dans 15 pays francophones, 3 continents, hein, le Québec, l'Europe et puis l'Afrique. Francophone parce que c'est plus facile au niveau de la langue, pour moi déjà. Hein, quand même, faut le reconnaître. Et la deuxième chose, c'est que...
Alors que si vous passiez vos week-ends chez Wall Street English, ouais, vous pourriez
vrai,
apprendre
c'est
anglais.
Vrai,
hein,
c'est
là,
vrai,
vous,
tout à fait.
Vous voyez, Sébastien,
ouais. Une perspective. Après, pour la quantité de travail, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais une perspective. Et le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, beaucoup de codes du travail à côté de l'Europe et en Afrique sont issus du code du travail français et belge. Et donc, il y a une proximité entre les deux qui était intéressante. Et donc, le rapport qu'on a au travail en France est particulier parce qu'effectivement, on considère que l'emploi, et c'est le droit du travail qui nous dit ça, hein, l'emploi, par la référence, c'est le CDI. Le contrat durée indéterminée, c'est un peu comme un mariage. C'est comme si on se mariait avec l'employeur, sachant que quand même, on peut divorcer du conjoint, mais on peut divorcer de l'entreprise. Et il y a des chefs d'entreprise hein, qui n'arrivent pas à recruter des gens en CDD parce qu'ils ont besoin de mission de 6 mois, 1 an. Et ils n'y arrivent pas parce que les gens cherchent qu'un CDI. Mais ils cherchent un CDI parce que les banques en face demandent un CDI. Vous voulez acheter une voiture à crédit, il faut un CDI. Vous voulez acheter un logement avec un emprunt, il faut un CDI. Alors qu'il y a des gens qui passent des décennies à travailler en CDD et qui ont une stabilité financière, qui ont des revenus réguliers, qui ne sont pas forcément au chômage en plus, qui enchaînent, et qui n'ont pas accès à ça. Et ça m'est arrivé de voir, il n'y a pas très longtemps, je faisais un audit dans un centre médico-social et la dame qui travaille à la plonge... donc il y avait un EHPAD, etc. Et la dame qui travaillait à la plonge venait de passer en CDI parce qu'elle venait d'acheter une maison. Et avant, elle avait une quarantaine d'années, et avant elle travaillait qu'en CDD. Et le fait de devoir faire un emprunt pour acheter une maison l'a obligée à passer en CDI. Ce qui n'était pas son souhait. Elle préférait le CDD parce que d'abord, elle changeait d'entreprise régulièrement. Donc elle découvrait des nouveaux univers de travail, ce qui lui apportait une satisfaction. Elle voyait d'autres équipes, d'autres façons de travailler, et c'était beaucoup plus riche pour elle.
Et paradoxalement, un autre des paradoxes, eh bien, les personnes qui sont en CDI, eh bien, supportent un travail qui les épuise parce qu'ils sont en CDI pendant des années.
Oui, tout à fait. C'est le risque. C'est-à-dire que parce qu'on a obtenu enfin ce fameux Graal, ce CDI, le risque est d'avoir peur de le quitter. Et donc, pour pouvoir garder son CDI, eh bien, on va supporter des choses qu'on ne devrait peut-être pas supporter et qu'on ne supporterait pas en CDD.
Sébastien Vaumoron et Patrick Soula, ils sont nos invités jusqu'à 10h et on parle du paradoxe du burn-out ce matin.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons du paradoxe, des paradoxes, hein, puisque c'est au pluriel, du burn-out ce matin avec notre invité Sébastien Vaumoron et puis Patrick Soulaï. Je rappelle que vous publiez, Sébastien, Paradoxe du burn-out. Concrètement, que faire, mieux comprendre les dessous de sa mécanique aux éditions Tom Pouce. Alors, c'est pas un livre de plus sur le burn-out, parce qu'il y en a plein, hein, c'est un sujet porteur aujourd'hui. On est passé de sujet émergent il y a quelques années à maintenant sujet porteur. Vous parliez de votre enquête, mais c'est important parce que c'était une enquête et vous vouliez montrer des choses particulières sur le burn-out. La question n'était pas de savoir comment on prévient ou comment s'en sortir.
Tout à fait. En fait, j'ai mis 6 mois à réfléchir au sujet. J'ai décidé avec mon éditeur de travailler sur ce sujet-là. Et ça m'a pris 6 mois de réflexion pour savoir comment j'allais faire, parce que je voulais pas refaire un bouquin qui dit ce que tout le monde trouve sur Internet. Je voulais pas faire un bouquin, un recueil de citations de patients qui sont en burn-out. Il y en a déjà des bouquins et ça n'apporte pas grand-chose. Donc je voulais quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, je l'ai trouvée avec cette enquête. Il y a eu plus de 200 professionnels, soit du domaine du soin, hein, des médecins généralistes, psychiatres, des médecins de la sécurité sociale, des avocats, des managers, des responsables de ressources humaines, des assistantes sociales. J'ai fait des entretiens de plus d'une heure avec plus de 200 personnes comme ça dans 15 pays francophones. Et puis, il y a eu des enquêtes par questionnaire auprès d'une centaine de personnes en burn-out, c'est-à-dire en arrêt de travail, pour 6, 12, 18 mois. Et de ça, finalement, sont apparus des paradoxes. Et franchement, je m'y attendais pas au tout début. Je savais pas trop ce que j'allais trouver. Moi, j'avais déjà une idée du burn-out. Hein. J'avais eu des personnes en burn-out en consultation. Mais je ne savais pas ce qui allait sortir de cette enquête. Et en fait, ce sont des paradoxes, effectivement. Mmh. Ouais.
Et alors, peut-être, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais vous avez une surreprésentation de femmes. Oui. Dans les gens qui vous ont répondu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, Sébastien ?
Ça a un côté paradoxal, parce que quand on pense surcharge de travail, on pense l'homme qui bosse beaucoup, et on pense pas forcément à la femme. Et le nombre de femmes est beaucoup plus important dans les enquêtes, à la fois les témoignages des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines, que des médecins, etc., qui disent on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes, que dans le questionnaire qui a été rempli par des personnes en burn-out, où il y avait 4 femmes pour un homme. Et donc, à quoi est-ce dû ? En fait, il y a les hypothèses. Il y a le fait que les femmes souvent cumulent 2 journées. Il y a celle au travail et puis celle qu'elles font à la maison. Mm-hmm. Il y a ça. Il y a les situations de couples séparés où la plupart du temps, c'est encore la femme qui a en charge les enfants. Et donc, elle a une charge mentale qui est très élevée comparée aux conjoints. Il y a les femmes qui mettent de côté un projet de vie familiale, c'est-à-dire soit elles restent célibataires, soit elles ne font pas encore d'enfants en se disant « je vais travailler beaucoup, m'investir, avoir des promotions dans l'entreprise, avoir une carrière ». Et finalement, elles s'aperçoivent que c'est quand même assez cadenassé par les hommes, et que les postes à responsabilité sont plutôt gérés entre eux et peu ouverts aux femmes. Et donc, il y a un épuisement pour obtenir quelque chose qu'elles n'obtiennent pas. Il y a un effet de plafond de verre comme ça qu'on ne voit pas et on se heurte contre et on s'en aperçoit pas. Et donc, les femmes, oui, sont plus exposées visiblement que les hommes.
J'ai appris un mot, tiens, et les mots ne s'usent que si on s'en sert, le mot karoshi.
Oui. Alors ça, c'est un épuisement qui est mortel. C'est-à-dire que ça vient du Japon et il y a des gens qui travaillent. Alors, ils travaillent pas 10 heures, 12 heures par jour. Hein. Ils travaillent 16, 18 heures par jour jusqu'à la mort. C'est-à-dire ils meurent au travail. Et il y a des années, j'avais été invité à participer à une émission de radio et le journaliste, l'animateur, il m'expliquait que quand il était plus jeune, il vivait en colocation avec plusieurs personnes, et l'un d'entre eux travaillait comme ça, mais toute la journée sur informatique, et un jour, ils l'ont retrouvé mort sur son fauteuil. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté.
Un karoshi. Je vous ai connu, vous faisiez passer des tests.
Oui.
De QI.
Tout
mais
à fait.
Vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle les neuroatypiques. Mmh. Alors, les neuroatypiques, que ce soit les 10, les TDHA, que ce soit les HP, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une population, ou est-ce que c'est un paradoxe, qui est plus sensible au burn-out ?
Alors, dans mon expérience, le trouble de l'attention, oui, expose plus à l'épuisement, parce que quand il y a un trouble de l'attention, eh bien, on va refaire 2 ou 3 fois les mêmes choses, on va oublier, on va être obligé de reprendre, et donc ça allonge le temps de travail. Donc ça, oui, ça, c'est une exposition supplémentaire. Le syndrome d'Asperger aussi, avec des difficultés d'interaction sociale qui font qu'il y a toujours une charge mentale élevée sur l'analyse des situations, quoi dire, comment l'autre va réagir, etc. Une difficulté de décodage des relations, et donc ça aussi, ça expose. Le haut potentiel intellectuel, j'aurais tendance à dire, quand il est tout seul, c'est-à-dire quand il n'y a pas de trouble associé, ce qui est, selon mon expérience, plutôt très rare, lui n'expose pas plus, parce que finalement, c'est une capacité à raisonner à un niveau plus élevé. Ce qui va être peut-être un facteur d'exposition au risque de burn-out, c'est le fait que ces hauts potentiels soient en même temps perfectionnistes. Parce que quand on est perfectionniste, on n'a jamais fini, évidemment. Et puis la culpabilité. Le fait de se dire, j'aurais dû ou j'aurais pu faire plus, mieux, etc. Et donc, les hauts potentiels qui ont ce profil-là, peut-être avec un sentiment de culpabilité, pas en faire assez, etc., perfectionnistes, oui, là, ils sont exposés. Ouais.
Sur les perfectionnistes, justement, parce que vous consacrez tout un chapitre aux perfectionnistes, et vous dites que finalement, le perfectionnisme va de pair avec ce sentiment de culpabilité. C'est le duo gagnant.
Tout à fait. Ça. C'est le combo gagnant. C'est vraiment le jackpot. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'ont parlé de leur perfectionniste, elles étaient toutes avec, en plus, ce sentiment de culpabilité. Voilà. Et, en fait, elles n'arrivent pas à sortir de ça, de la culpabilité, du fait qu'elles auraient pu faire mieux. Mais on peut toujours faire mieux. C'est sans fin. Et donc, on s'épuise à ça. Il faut vraiment prendre du recul. Et prendre du recul, si vous voulez, c'est quitter les émotions que ça génère pour rentrer dans la raison. Et se dire, raisonnablement, c'est bien. Ce que j'ai fait est bien, ça pourrait être mieux. Mais finalement, il n'y a pas forcément de plus-value à aller au-delà du très bien ou du bien. Je vais y passer beaucoup de temps. Ça va être parfait après. Mais le résultat, finalement, ça va pas générer. Si on est prof, les élèves seront pas forcément meilleurs. Si j'ai fait un rapport, il sera pas forcément meilleur si l'organisation graphique, etc., est plus fouillée.
Mais ça induit quand même une connaissance de soi assez importante, puisqu'il faut, parce qu'on peut dire ça comme ça, mais il faut se voir le faire, avoir la capacité de prendre du recul et de dire ce que vous avez dit. En discutant tout à l'heure avec Philippe, je disais que il y a aussi le perfectionnisme, mais il y a aussi les injonctions dont vous parliez à l'enfance. Faut que tu fasses des efforts. Ça se retrouve aussi au travail. Faut que tu me fasses plaisir. Donc quand t'es en face d'un patron avec qui tu veux lui faire plaisir, il faut que je le sois parfait. Et il faut aussi ne pas montrer tes faiblesses. Donc tu vas peut-être en faire beaucoup plus. Donc moi, quand vous dites tout ça, je me dis à chaque fois, j'ai lu le livre et achetez-le, il est bien. Mais je me dis c'est également un rapport à soi qui est important, une connaissance de soi qui est importante et avoir ce recul sur soi-même.
Ouais, et ça c'est difficile en fait parce que les personnes ne prennent pas ce recul. Et c'est justement les personnes qui prennent ce recul finalement manifestent quelque chose qui est d'une sorte d'un Jean-Foutisme. Finalement, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera fait demain. Et ça, c'est insupportable pour un perfectionniste.
Les procrastineurs.
Oui, alors procrastineurs, on met au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ouais. Des fois, tout simplement, on se dit, il est 17h30, 18h, 19h30, je vais peut-être arrêter, je vais pas aller jusqu'à 20h30.
C'est pas la boîte à ma mère ou à mon père. Donc, je vais à mon cours de saxo.
Exactement, ouais. Des fois, le cours de saxo, il est tard. Hein.
Mais moi, j'en connais, par contre, qui à l'inverse, même s'il est 17h30, vont terminer ce qu'ils ont entrepris, même s'ils ne seront pas payés en heure sup. Et c'est presque un devoir pour eux de terminer. Voilà, c'est ça, c'est d'aller au bout de la tâche.
Ouais. Oui, alors si c'est ponctuel, ça n'épuise pas, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est lorsque ça met notre santé en difficulté, c'est ça le problème. Donc si ça devient chronique, si c'est tous les jours, toutes les semaines, pendant des mois, ça expose à des difficultés. Et le problème, c'est que les personnes ne le voient pas. Les signes avant-coureurs, ils s'en aperçoivent pas. Et donc, ils sont dans une machine qui fait tourner toujours de plus en plus vite et ils pédalent toujours de plus en plus vite. Et ça va pour certains jusqu'au burn-out. Ouais.
Du coup, ça, ce serait le rôle des managers, du coup, de se rendre compte des fonctionnements de leurs collaborateurs.
C'est le rôle des managers, effectivement, mais c'est complexe parce que la plupart des managers que j'ai pu interviewer pour cette enquête et ce livre me disaient, on a dans notre entreprise, on a des salariés qu'on a identifiés comme étant à risque parce qu'ils sont perfectionnistes, parce qu'ils s'engagent trop loin. On essaye de les freiner, mais on n'y arrive pas. Ils ne sont pas à l'écoute, en fait. Ils sont à fond dans leur travail, ils veulent très bien faire, et ils vont trop loin. Et ces managers ne savent pas toujours comment rattraper ces salariés qui sont vraiment sur la mauvaise pente.
Mmh. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les salariés qui veulent trop bien faire sont potentiellement à risque de burn-out?
Non.
Ou pas?
Mais non,
c'est
non,
ça,
non, non.
Oui, oui.
Alors, souvent
c'est
dans
ça
langage,
qu'il faut comprendre.
Ouais, souvent dans le langage courant, on dit oui, enfin, on ne sait pas à qui ça va arriver. Comme on ne sait pas à qui ça va arriver, ça peut arriver à tout le monde. En fait, non, ça n'arrive
ça
pas à tout le monde.
Que c'est un autre des paradoxes.
Oui, complètement. Voilà. Mmh. Ça n'arrive pas à tout le monde. Quand vous avez une entreprise, vous prenez une boîte d'informatique, vous avez 15 ingénieurs, il y en a un qui fait un burn-out, mais pas les 14 autres. Donc, ça n'arrive pas à tout le monde. Et pourtant, ils travaillent sur les mêmes projets, ils ont les mêmes temps de travail, ils sont dans la même entreprise, le même local. Donc, non, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a quand même un profil, un candidat au burn-out, oui. Et ce candidat, c'est ça, c'est la personne surinvestie, généralement avec des très bonnes compétences, à qui peut-être on va en donner plus, parce que elle, on sait que ça va être très bien fait, qu'elle a les bonnes compétences.
Mais on va lui en donner plus, parce qu'au départ, elle en demande peut-être plus.
Mais elle en demande aussi plus, oui. Parce qu'autrement, un trapping, elle s'ennuie. Donc, et c'est là où il faut arriver à faire l'articulation, peut-être en donner plus à certains moments, et soulager la pression à un autre moment, pour que la personne puisse se reposer, se ressourcer, et puis repartir.
Du coup, ça interroge quand même, je reviens dessus, sur la formation des managers.
Oui,
Parce que là, c'est compliqué de dire à quelqu'un, imaginez nos auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo, de dire, ok, je suis perfectionniste, ça peut m'arriver, mais si je m'en rends pas compte, bah, du coup, comment je fais? Est-ce que c'est pas à la personne qui est un peu, bah, qui a le rôle d'être un peu en dehors, d'être...
N+1.
Et ouais, N+1, d'être un peu, d'être bien formé, de dire, eh ben, de, s'il ne sait pas, je dis ça parce que j'en forme également, c'est aussi de pouvoir trouver la solution, le pouvoir discuter, de pouvoir mettre quelque chose en place, parce qu'à un moment donné, à force de tirer, bah, ça craque quoi, à chaque fois.
Oui, alors ça, c'est le problème de la formation des managers. C'est-à-dire que les risques psychosociaux, on en parle en France depuis la fin des années 2000, donc c'est quand même assez récent. Un certain nombre de managers ont été formés avant qu'on en parle. Ensuite, il y a des personnes qui deviennent managers et qui étaient des techniciens. On peut avoir des très bons techniciens et on se dit, tiens, il est très bon, on va le gratifier, on va donner une promotion, il devient manager. Sauf que les compétences pour être un très bon technicien, un manager, ce sont pas les mêmes.
Ouais.
Donc, il faut se former dessus et souvent, il y a une prise de poste un peu sur le tas et il y a un peu de formation qui arrive après, mais pas suffisante.
Même dans la formation de manager, pas ceux qui sont techniciens, mais c'est ceux qui sont formés en tant dans le management, c'est vraiment... c'est vraiment très large, c'est pas en général, hein, moi, ce que j'ai vu, quand je forme des managers et que je leur propose ma formation, ils sont, on n'a jamais vu ça. Ils ont vu des choses techniques, des choses très généralistes, on parle pas de l'accompagnement des collaborateurs de manière spécifique, c'est vraiment des choses...
Ils sont formés sur l'opérationnel,
voilà,
en fait.
C'est ça.
Quand on est manager, il faut aussi prendre du recul, il faut avoir une vision vraiment un peu de loin pour voir comment les équipes évoluent, la dynamique interne. Et ça nécessite une formation vraiment particulière dessus. Ouais, complètement.
La fameuse vision à 360, comme on le dit maintenant en entreprise. C'est déjà la musique. Si la musique arrive, c'est que on va faire encore une petite pause de publicité. Paradoxe du burn-out, c'est le titre de votre nouveau livre, Sébastien Vauremont. On cite l'éditeur, c'est Tom Pouce. Et on continue d'en parler jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons du burn-out et de ses paradoxes ce matin avec notre invité Sébastien Vauremont qui publie justement Paradoxe du burn-out, concrètement que faire, mieux comprendre les dessous de sa mécanique aux éditions Tom Pouce. Et puis Patrick Soulaye est avec nous. On parlait du terreau du burn-out et vous dites que finalement, c'est pas quand on rentre dans le monde du travail que le terreau du burn-out s'installe en fait, c'est bien avant, c'est sociétal et culturel.
Oui, c'est la construction que l'on a vis-à-vis du travail, effectivement, et ça c'est vraiment dès l'école et même avant l'école, c'est-à-dire que un enfant avant qu'il aille à l'école, les parents vont lui dire, tu sais, quand tu iras à l'école, il faudra bien écouter la maîtresse, il faudra bien faire le travail, etc. Donc on est conditionné dans ce rapport-là au travail, qu'il soit le travail scolaire. D'ailleurs, vous savez, quand vous avez un enfant qui est en classe de première ou de terminale, si quand il rentre le soir après les cours, il vous dit j'ai rien à faire ce soir, si ça arrive une fois, ça va. Si c'est tous les soirs, vous dites soit il ment, soit il a des mauvais profs. D'accord? S'il a pas de boulot à faire le week-end, dites, bon, c'est pas un bon lycée. Voilà. Or, quand on arrive dans le monde du travail, on dit, oh là là, t'arrives chez toi, tu travailles plus. C'est fini. Puis le week-end, tu travailles pas, et pendant les vacances, surtout pas. Alors que toute la scolarité, c'est-à-dire le moment où on se construit, où on construit son rapport au travail, où on se construit en tant qu'individu, on nous enseigne qu'il faut travailler le soir, le week-end, pendant les vacances. Donc il y a vraiment un rapport au travail qui se construit de façon un peu insidieuse, voire un peu sournoise. Et puis, il faut le déconstruire quand on entre dans l'emploi salarié ou l'emploi non salarié, travailleur non salarié, parce que là on a un code du travail qui nous dit, eh ben voilà, l'employeur doit veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, donc il va falloir réglementer, ce qui est normal. On peut pas non plus faire travailler tout le monde n'importe comment, etc. Mais il va falloir respecter des horaires, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Et donc quand les jeunes cadres arrivent ou les jeunes techniciens arrivent et qu'ils sont avec cette envie de s'investir à fond comme ils l'ont fait durant les études, eh bien on les freine. Et des fois on a du mal à les freiner, effectivement. Des fois ils y vont quand même.
Vous dites que le burn-out est souvent perçu comme une surcharge de travail et que pourtant c'est paradoxal. Pourquoi ?
C'est paradoxal sur quel aspect vous...
Non, ça veut dire que forcément, le burn-out, c'est pas forcément la cause d'une surcharge de travail.
Non, c'est-à-dire, non.
Surcharge, ça serait beaucoup de travail.
Oui, alors il peut y avoir, au niveau de la question du travail en lui-même, il peut y avoir l'intensité du travail qui peut être impliqué. Et puis, il peut y avoir d'autres éléments, il peut y avoir des facteurs émotionnels. Par exemple, on voit chez les soignants, travailler avec des enfants qui sont avec des maladies graves, et bien travailler tous les jours avec des enfants qui ont des maladies graves, vous êtes obligé de manifester des émotions qui sont pas celles que vous ressentez. Vous pouvez avoir beaucoup de tristesse et vous pouvez pas arriver en pleurant au service de l'hôpital ou autre. Il va falloir être un peu joyeux et donc vous manifestez des émotions qui sont pas celles que vous ressentez. Donc cette dissonance émotionnelle est le terreau aussi d'un épuisement émotionnel. Et donc, dans la définition du burn-out, il y a trois aspects. Il y a l'épuisement émotionnel, il y a l'épuisement cognitif, le fait qu'on n'arrive plus à travailler, à réfléchir, à mémoriser, et il y a un sentiment de dépersonnalisation. Voilà.
Et vous expliquez que le diagnostic est très facile à poser. Hein. Il n'y a pas d'hésitation.
Oui.
Contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Là, il y a toute une difficulté. C'est-à-dire que quand on est en burn-out, on est en burn-out. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler et on fait du canapé au lit et du lit au canapé pendant des mois, en général. Là où il y a une confusion, c'est-à-dire que le terme de burn-out, lui, a subi une dilution du sens et une extension du sens. La dilution, c'est le fait que des personnes fatiguées, se disent en burn-out alors qu'elles ne sont pas en burn-out, elles sont en fatigue. Et ça, ce qui contribue à ça aussi, ce sont des enquêtes qui sont faites à l'échelon national où on nous dit, par exemple, récemment, il y a eu dans la presse des articles, où on nous dit il y a 2 550 000 salariés en burn-out. Ça fait un salarié sur 10, hein, c'est 10%. Hein. C'est faux. Il n'y a pas un salarié sur 10 qui en arrêt de travail depuis 6 mois. C'est pas vrai. Donc ce sont des enquêtes qui sont faites sans pouvoir interroger les gens en arrêt de travail. Parce que la CPM ne donne pas le nom des gens, évidemment. En plus, le diagnostic de burn-out médicalement ne peut pas se poser parce que ça n'est pas une maladie reconnue comme une maladie professionnelle.
Même s'il y a des gens qui sont arrêtés pour cause de burn-out.
Tout à fait. Mais le fait que ça soit pas dans le tableau des maladies professionnelles fait que les médecins ne peuvent pas mettre sur le certificat d'arrêt de travail burn-out. D'abord parce que le médecin généraliste ne peut pas vérifier que les conditions de travail sont effectivement à l'origine de l'épuisement. Il peut pas aller où sur le lieu de travail, il peut pas le vérifier. C'est le médecin du travail qui peut faire ça. Mais c'est pas le médecin du travail qui fait le diagnostic. C'est le médecin généraliste. Donc on est sur des choses paradoxales où ça tourne en rond comme ça. Et donc on n'arrive pas à avoir ce diagnostic-là de burn-out. Alors après, sur les études, elles sont faites à partir de questionnaires qui mesurent l'état de fatigue. Et donc ces questionnaires sont passés dans des entreprises pour des gens en situation de travail. Et quand on prend les questions qui sont administrées, auxquelles il faut répondre, bah, ce sont des questions qui correspondent à des gens en train de travailler, pas des gens qui sont en arrêt depuis 6 mois. Donc ce sont des questionnaires qui nous disent, voilà, il y a 2 550 000 personnes à risque élevé de burn-out. Mais pas qui sont en burn-out, c'est pas vrai. Ils sont encore en travail. Alors soit on est en burn-out, soit on est au travail. Mais on peut pas faire les deux, c'est pas possible.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, même pour les gens qui nous écoutent, ils vont pouvoir faire la différence, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens en burn-out, mais qui continuent à travailler. Là, ce que vous expliquez, c'est que lorsqu'on est en burn-out, on peut rien faire.
Complètement. D'accord. On est épuisé. La Haute Autorité de la Santé intitule le dossier consacré au burn-out « Syndrome d'épuisement professionnel ». Et l'épuisement, c'est lorsqu'on est épuisé, c'est pas lorsqu'on est en train de se fatiguer, c'est vraiment, on est épuisé. C'est un peu comme si vous courez, vous faites un marathon, ou plus qu'un marathon, vous courez jusqu'au moment où vous allez tomber d'épuisement. C'est ça. Et le burn-out, c'est ça. La veille, on travaille. Le lendemain, on n'arrive plus à travailler.
Ouais. Plus à travailler et plus à
réfléchir, même.
À rien faire d'autre.
Oui, le cerveau est complètement usé, fatigué. Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en cas de burn-out ? Ça, c'est intéressant d'un point de vue hormonal.
Alors, il y a toute une difficulté sur ça, c'est aussi un des paradoxes. C'est-à-dire que lorsque un travailleur est en burn-out, son médecin, généralement, lui donne un antidépresseur, c'est-à-dire un médicament qui va lutter contre une déprime, une dépression de l'humeur. Alors, certains antidépresseurs sont aussi des stimulants. C'est-à-dire que l'antidépresseur agit sur la sérotonine, qui régule l'humeur, et puis certains antidépresseurs vont agir aussi sur la noradrénaline, qui agit sur la capacité à réfléchir, à se concentrer, etc. Or, quand on voit quelqu'un qui est en burn-out, la plupart du temps, il n'est pas déprimé, il est épuisé, fatigué, et donc ce n'est pas la sérotonine qui active l'attention, la concentration, la motivation, c'est la dopamine. Ça n'est pas le même neurotransmetteur. Et donc, le médicament que l'on donne, eh bien, il semblerait qu'il soit pas le meilleur médicament pour sortir du burn-out. Et la Haute Autorité de la Santé a publié un rapport où elle le dit. Où elle dit simplement la prise en charge avec un seul antidépresseur n'est pas optimum. Et ça ne correspond pas. Ensuite, elle dit un burn-out n'est pas une dépression. Et une dépression n'est pas un burn-out, bien que les deux parfois puissent être associés. Ça peut arriver, mais ça c'est pas la même chose. Et puis il y a des analyses internationales qui montrent effectivement que quand on a des patients en burn-out et qu'on les prend en charge avec que des antidépresseurs et du repos, eh bien on n'arrive pas à les faire sortir de cet état-là assez rapidement.
Et ce que vous expliquez, c'est qu'il faut s'intéresser au tryptophane.
Alors il faut s'intéresser effectivement aux neurotransmetteurs qui sont dans le cerveau, et à ce qui permet de les fabriquer, puisque ces neurotransmetteurs, on les fabrique à partir de notre assiette. Et donc, il y a toujours une question d'équilibre. Vous savez, la plupart des gens parlent d'une alimentation équilibrée. En fait, quand les gens parlent d'une alimentation équilibrée, généralement, ils confondent avec une alimentation diversifiée. Le fait de manger de tout, c'est une alimentation diversifiée. Le fait qu'elle soit équilibrée, c'est apporter les nutriments dont on a besoin pour en face faire des efforts. Et ça, en général, c'est déséquilibré. C'est bien parce que c'est déséquilibré qu'il y a cet épuisement qui se fait par la surcharge de travail, par le cerveau qui n'a pas assez de matière première, d'énergie pour fonctionner, pour faire face. Donc, il faut aller travailler sur, il faut s'interroger sur la dopamine. Et tout ça, ça peut s'oser. Un médecin peut faire un dosage de dopamine et voir si elle s'effondre ou pas. Alors, ce qui apparaît, c'est que quand les médecins font ce dosage de dopamine chez des personnes en burn-out, eh bien, la dopamine, généralement, est effondrée. Et c'est sur elle qu'il faudrait peut-être travailler. Mais là, il faudrait qu'il y ait des études médicales qui soient lancées pour pouvoir vraiment voir les effets, et que ça soit dans le cadre d'études et pas simplement de constats, d'expérimentations médicales qui sont pas du tout nocives. Hein. Enfin, je veux dire, la dopamine, manger de la tyrosine, on en mange dans les aliments, des compléments alimentaires avec de la tyrosine, sans ventre libre, il y a pas de danger sur ça.
Vous vous intéressez dans votre livre aussi, puisqu'il y avait une enquête, il y avait un volet de votre enquête qui concernait les répercussions du télétravail sur la santé. Et paradoxalement, là aussi, c'est un autre des paradoxes que vous soulevez, c'est que le fait de travailler à la maison, bah, ça produit aussi du burn-out, alors que ça devrait, au contraire, en produire moins.
Oui, et ça a été... j'ai fait deux enquêtes, en fait, sur le télétravail et la santé. La première datait du premier confinement. Et la deuxième enquête, c'était un an après, donc le troisième confinement. Et ce qui est apparu lors du premier confinement, c'est que 73% des personnes enquêtées se disaient satisfaites à très satisfaites du télétravail. Et en même temps, c'était les personnes qui avaient le taux d'augmentation d'addiction le plus élevé, près de 60%. Alors, addiction, c'était des stimulants, donc théanine, enfin du thé, du café, de la nicotine, qui sont vraiment des psychostimulants, qui agissent sur la dopamine, justement, pour travailler plus. Augmentation de l'alcool aussi, hein, plus de 60% d'augmentation d'alcool, et qui est plutôt à effet sédatif le soir. Et puis, malgré ces indicateurs de santé qui se dégradent, eh bien, il s'estimait avec une satisfaction très, très élevée. À la deuxième enquête, un an après, ce taux de consommation de toxiques avait quand même baissé, mais restait quand même beaucoup plus élevé qu'avant. Et donc, le travail en télétravail est propice, effectivement, à augmenter la charge de travail avec le fait de rouvrir l'ordinateur à 20h, 21h le soir.
Oui, parce qu'au final, il n'y a plus de cadre. Donc on va créer un cadre, et c'est ce que vous disiez aussi dans le livre, c'est que on peut s'épuiser, quelqu'un qui n'est pas organisé peut s'épuiser. Et du coup, comme le télétravail c'est quelque chose de nouveau, et ben si on n'est pas formé peut-être au télétravail, eh bien on peut se retrouver et se dire bon bah aujourd'hui je fais rien jusqu'à je sais pas 15h et puis je vais travailler de 17h à 1h du matin quoi.
Oui, tout à fait. Et le problème c'est que à ce moment-là, on ne respecte pas des rythmes biologiques et on va s'épuiser, se fatiguer. Vous savez, le télétravail, on pense qu'on l'a découvert là il y a 2 ans avec le premier confinement. En fait, il y a une profession qui est en télétravail depuis 150 ans, ce sont les enseignants. Les enseignants font la moitié, au collège, au lycée, ils font la moitié de leur temps de travail sur l'établissement en cours et la moitié en préparation. Or, quiconque connaît un enseignant sait qu'il ne travaille pas de 8h à 18h du lundi au vendredi. Il travaille le soir, après dîner, des fois 23h, minuit. Il travaille le samedi, il travaille le dimanche pendant les vacances. Et donc, c'est un télétravail qui est sauvage, qui n'est pas du tout encadré. Prenez un salarié d'une entreprise qui travaillerait le soir à 23h sur son ordinateur, qui enverrait des mails à cette heure-là, le samedi, le dimanche ou pendant les vacances. Mais ça serait un problème énorme. Et un employeur qui laisserait faire, ça serait un problème énorme.
Patrick, on entend souvent dire que des gens qui sont les mêmes au travail qu'à la maison.
Ouais. C'est dire que en fait, ils sont différents. Ils sont différents. On dit souvent, oui, moi, je suis pas le même à la maison qu'au travail. Et moi, je pense que non. Je pense qu'on est les mêmes. On a la même manière de fonctionner. Sauf que peut-être que on le fait différemment. On essaie de jouer un peu sur la perception que l'on a de nous. C'est-à-dire, je donnais cet exemple tout à l'heure. J'ai quelqu'un que j'accompagne en ce moment qui me dit, bah moi à la maison, c'est ma femme c'est elle la boss. Mais au travail, c'est moi le chef. Okay. Et puis quand je les accompagne, je me rends compte qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils font à la maison, ils font toujours ce que lui il veut, mais il le fait en douce.
C'est un soft power.
Exactement. Mais il est toujours dans le.
Ça reste le chef, c'est ça que je veux dire.
Ça reste le chef, ah, oui. Exactement. Ouais. Donc comment est-ce
ouais. Il y a effectivement des tempéraments quand même, et ces tempéraments, ce sont des dynamiques que l'on a. Et que l'on va manifester de manière différente en fonction des contextes sociaux. Et peut-être qu'au travail, s'il a une fonction de responsabilité, il va s'affirmer plus. Peut-être que dans sa vie conjugale, il n'a pas cette responsabilité. Il va s'affirmer moins brutalement ou frontalement, mais un peu plus sournoisement, et amener son épouse à faire ce que lui a envie qu'il soit fait. Et à ce moment-là, il a quand même cette direction-là, tout en laissant l'impression que c'est elle qui a l'initiative et qui dirige.
Oui.
Bon, allez, la suite est dans votre livre, Sébastien Vaumeron, Paradoxe du burn-out, concrètement que faire, mieux comprendre les dessous de sa mécanique aux éditions Tom Pouce, un éditeur militant qui
tout
est
à fait.
Beaucoup pour les enfants,
oui.
En tout cas. Ouais. Super intéressant, il y a des collections, vous allez voir, sur tous les sujets chez Tom Pouce. Patrick, maintenant, les places se vendent au marché noir pour assister au réveillon 90s.
Mais oui, dépêchez-vous, parce que là, hier, on en a vendu quasiment la moitié, donc il faut se dépêcher. 90s, le 31, on finit l'année ensemble et on commence la nouvelle année ensemble, donc prenez vos places, ça va être chouette.
Il faut s'habiller comment? Parce que pour Sébastien Vaumeron, tu en meurs d'envie.
En fait, il faut s'habiller comme dans les années 90. Pourquoi? Parce que dans les années 90, on tentait tout. C'était des fois n'importe quoi, mais on tentait tout. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé dans cette décennie, c'est que être différent, c'était bien. Et en ce moment, bon, on aime bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir comme dans les années 90, comme vous êtes, différemment.
Vous écoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous reverrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.